Thème qui n'est pas facile à aborder, c'est le thème de la générosité. Alors, n'allez pas croire que je vous prenne pour des radins. On va commencer, on va poser les bases de notre petite demi-heure où on va passer nous allons passer ensemble. Je ne dis pas que vous êtes radins. Et d'ailleurs, je ne vais pas parler, quasiment pas parler d'argent ce matin. Parce que nous savons que l'argent, pour nous, est un sujet tabou, donc nous n'en parlerons pas. Je fais même de la politique à l'église. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Non, je vais vous parler surtout d'abord que la générosité, c'est un point de caractère de Dieu. Nous savons que Dieu est généreux. Il a tout donné. Il a tout donné pour moi, on chante souvent ce chant. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Il a donné, donné, donné. Dieu a toujours donné les choses. Et c'est un Dieu généreux que j'ai, un Père généreux. Et c'est un point que Dieu veut développer en chacun de nous. Parce que nous avons été créés à son image, n'est-ce pas ? Nous avons été créés pour être comme lui. Mais la générosité, souvent, elle indique un niveau d'amour. Un niveau de consécration et de renouvellement d'une vie. On voit qu'une vie change lorsque la générosité est présente, est très présente. Comme je le disais, la générosité fait partie du caractère de Dieu et on comprendra aisément que c'est un point que nous pouvons mesurer pour déterminer la qualité de notre caractère. Alors désolé, je vous demande pardon déjà à l'avance pour toutes les fois où vous allez vous sentir accusé. Mais c'est pas moi, c'est vraiment, je le dis, des choses avec beaucoup d'amour et... Quelqu'un a dit, vous pouvez donner sans amour, mais vous ne pouvez pas aimer sans donner. Et Winston Churchill a dit, nous gagnons nos vies parce que nous donnons, et nous bâtissons nos vies grâce à ce que nous donnons. Et puis enfin, la Bible dit, entre autres, parce qu'elle parle beaucoup de générosité, l'âme généreuse est comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Enfin et surtout, on relie souvent la générosité à l'argent, n'est-ce pas ? On dit qu'une personne est généreuse parce qu'elle donne de l'argent. Mais néanmoins, j'ai choisi d'aborder avec vous ce sujet en parlant plutôt du temps que nous donnons aux autres, que nous donnons au Seigneur, que nous donnons pour le corps de Christ. J'avais envie de vous parler de cela. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que notre temps, je ne dis pas ça parce que je suis retraité, parce qu'il y a une revue qui s'appelle Notre Temps. C'est pour les retraités, t'es abonné. Ah bon. Qui parle c'est pour les retraités, ça nous parle de voilà ce qu'on peut faire pour partir en vacances, etc. Voilà, ça c'est pour les retraités, Notre Temps. Comme si on attendait de vivre après la retraite. Hein. Là, c'est... Non, mais je me suis rendu compte, en fait, que c'était devenu comme un trésor qui nous était difficile de donner aux autres. Et c'est un aspect sur lequel je voudrais vous interpeller. En effet, au temps de Jésus, on parlait souvent de cette divinité, vous savez, de Mammon. Vous avez entendu parler qu'à un moment, Jésus dit « on ne peut pas avoir de maître ». Ou on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir Mammon et Dieu. Et je suis désolé de vous le dire, mais il y a une divinité qui est apparue dans notre monde. Maintenant, il y a tant on. C'est devenu une nouvelle divinité. Non, mais en plus, ça vous fait sourire, mais je peux vous dire que c'est réellement ce que Dieu m'a dit. Simon, ça vaut un resto, ça. Je la mets là. Le Seigneur m'a montré, il m'a dit quand même, le temps que nous donnons est devenu une puissance devant laquelle beaucoup de croyants se prosternent. Aïe, aïe, je sens les dents grincer, j'entends. Benjamin Franklin a écrit « Time is money ». Hein ? Que nous avons traduit, le temps c'est de l'argent. Benjamin Franklin voulait dire par ceci que pour faire des profits, il faut bien savoir utiliser son temps. si c'est en fonction du temps que tu donnes à une action que tu récolteras le profit. Les gens qui prennent beaucoup de temps à travailler, à s'investir dans leur travail, réussissent en général dans leur travail. Bien que parfois ça pousse au burn-out. Mais si tu veux réussir pour le royaume de Dieu, si tu veux gagner des choses pour le royaume de Dieu, je suis désolé de te le dire, mais il va falloir prendre du temps pour le royaume. Vous comprenez pourquoi Jésus dit « Cherche d'abord le royaume et sa justice, car les choses te seront données. » Mais c'est comme si chercher, c'était juste « Ah ben, je cherche... Moi, je peux j'ai deux manières de chercher quelque chose à la maison. » D'ailleurs, ma femme souvent me fait le coup. Je vous ai expliqué un peu. Et elle a raison. Vous êtes en train de vous dire « La pauvre Marie, elle va encore prendre quelque chose. » Mais non, mais par exemple, je peux chercher mes clés. Chérie, elles sont où mes clés? Vous savez ce qu'elle me dit souvent? À leur place, chérie. Sous-entendu, cherche. Ça fait sourire. Mais chercher le royaume de Dieu, c'est pas dire au Seigneur, c'est où ça, Seigneur? C'est le prendre le temps de chercher. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, Franklin a dit qu'il fallait bien utiliser son temps. Jésus enseigne ceci. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » On comprendra donc aisément que la bonne gestion de notre temps est primordiale et que nous, si nous voulons amasser des trésors dans le ciel. Non ? Et le Seigneur m'a dit quelque chose cette semaine ou la semaine dernière. Je crois que même j'ai prié pour ça un matin à 30 chronos. Il m'a dit, tu sais Bruno, le niveau de consécration de cette église dépendra du niveau de consécration de ton niveau de consécration et du niveau de consécration des responsables de cette communauté. Je parle aux responsables, mais je parle aussi à moi. Si, par exemple, vous ne me voyez pas engagé dans cette église, vous ne vous engagerez pas. Si vous ne voyez pas les responsables de cette communauté prier régulièrement et être rassemblés avec vous pour prier, n'attendez pas, messieurs, mesdames les responsables, que l'église se mette à prier. Je dois donner... Je dois être capable de donner, je dois être capable d'investir du temps si je veux m'amasser des trésors dans le ciel. Mais on va voir que parfois, on peut aussi récolter sur la terre dans le temps présent. Pour m'appuyer sur ce que je vais vous dire ce matin, je prendrai l'histoire de cette femme, vous savez, ce qu'on appelle la femme pécheresse. Qu'est-ce que j'aime pas ce mot, parce que, en fait, c'était une femme qui était dans un état de repentance. Très très fort. De Luc 7, j'ai pris quelques phrases. Je ne vous ai pas tout, parce qu'il y a 14 versets, donc je vous ai allégé. C'est dimanche, je me suis dit, ils sont fatigués, fin de semaine, on va leur en mettre moins. Un pharisien, Simon, il s'appelle Simon. Bienvenue Simon, au pays des pharisiens. Pria Jésus de lui donner, de manger avec lui. Donc il invite Jésus chez lui. Et une femme... Pécheresse, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporte un vase albâtre plein de parfums. Elle se tient derrière Jésus, au pied de Jésus. Elle pleure et bientôt elle mouille ses pieds de ses larmes. Puis elle les essuie avec ses cheveux, elle les baise, elle les oint de parfums. Simon voit cela. Il dit en lui-même, « Oh, si Jésus était prophète, il verrait bien de quelle espèce est cette femme !» Jésus dit à Simon, il le sait, il voit dans son cœur ce qu'il est. C'est incroyable, hein. Le Seigneur va des fois chercher des choses dans notre cœur qu'on ne dit à personne. C'est rigolo, j'aime beaucoup comment Dieu fait. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit toutes leurs dettes. Lequel l'aimera-t-il le plus? Simon lui dit, je pense que c'est celui à qui on a plus remis d'argent. Jésus lui dit, bah, je suis d'accord Simon, c'est vrai. Puis il montre la femme et il dit à Simon, « Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. » Mais elle, elle a mouillé de ses larmes mes pieds. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle verse du parfum, un parfum de grand prix sur ma tête. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Je vais toucher ça après, vous allez voir. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est celui qui peut pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Il y a une parole de Jésus qui m'a profondément touché dans ce passage. C'est celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et je vois que cette femme donne tout et pas peu. Elle donne tout. Elle donne de ce qu'elle a de plus cher au niveau de son argent. Elle donne de ce qu'il y a de plus cher au niveau de ses larmes. Elle donne pas juste, elle fait pas juste un acte de générosité comme on peut le voir. Elle donne tout ce qu'elle est, son cœur, ses larmes, ses cheveux, sa bouche pour embrasser le Seigneur. Elle donne tout. Pourquoi ? Parce qu'elle a senti combien elle avait besoin d'être pardonnée. Si tu crois que tu as besoin de grandir dans la générosité divine, reviens là d'où tu es venu, de ta conversion, et comprends combien tes péchés sont grands, et que tu ne mérites la mort, que tu ne mérites que ça. Et Dieu, dans son amour, dans sa générosité, dans sa grâce, que fait-il ? Il nous sauve, il nous ramène dans le royaume du Fils. Et nous, nous calculons, mais shame on you, honte à nous de pouvoir exprimer à un moment donné, de dire, oh mais moi je donne autant d'heures par semaine au Seigneur. En réalité, il doit tout posséder. Et c'est ce que cette femme, que j'appellerais une femme renouvelée, a compris. Elle a compris que elle a tellement reçu de Dieu que rien n'est trop beau pour le Seigneur. Il y a une personne d'accord avec moi. Et je peux vous dire que parfois, cette générosité rétrécie m'attriste. Et je ne parle pas de la vôtre, hein, je parle de la mienne. Et je me dis, mais Seigneur, aide-moi à revenir, à me repentir, à voir qui suis-je vraiment pour calculer des choses pour toi. Je ne peux pas, Seigneur. Il faut que ça arrête. Je ne peux pas continuer comme ça. Les 5 points pour nous faire grandir dans la générosité. D'abord, il faut que je fasse l'expérience de l'amour, de la générosité, du pardon de Dieu. Je viens d'aborder cela. Je ne vais pas m'attarder, mais l'expérience de cette femme est significative. Elle a compris à la fois tout le mal dont elle avait besoin d'être délivrée et en même temps tout le pardon divin. Je ne suis pas en train de vous dire « t'es mauvais, t'es bon à rien, t'es mauvais à tout ». C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis « oui, reconnais combien tu es mauvais, mais reconnais combien le pardon de Dieu est grand. Combien la grâce de Dieu est immense, magnifique ». Je n'envoie pas un poids de culpabilité, j'envoie un poids de grâce et de gloire sur la vie des gens là ce matin. Parce que je me dis, Seigneur, j'ai vraiment besoin de comprendre cet amour. Et je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit, je prie pour ça, je prie que vous compreniez l'amour. Parce que si quand je comprends l'amour du Christ, l'amour, l'œuvre de l'amour de Dieu à travers le Christ, je comprends combien ma générosité doit s'élargir, non ? Combien mon cœur doit s'élargir pour Dieu et pour son corps. Parce que quand je sers dans le corps, je sers Dieu. Si vous manquez de générosité dans ce domaine, ben je pense que c'est peut-être le temps de reprendre le temps devant Dieu et reconsidérer ce qu'il a fait pour vous. Moi, j'ai un cahier de dévotion, enfin j'en ai plusieurs maintenant, J'écris, je suis un écrivain. Je viens comme Geoffrey. J'écris. Et vous savez, pourquoi j'écris les choses ? Pour me souvenir de ce que Dieu fait. Pourquoi Dieu demande-t-il à Moïse, à un moment donné, il lui dit, écris ça dans le livre de souvenirs. Mais notre mémoire, elle est tellement petite. On oublie tous les bienfaits de Dieu, tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais parfois, j'ai honte de ce que j'ai oublié. Il faut qu'une situation me rappelle. Ah oui, mais c'est vrai, Dieu a fait ça aussi pour moi. Je veux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait à travers moi, à travers ma bouche. Il y a 15 jours, vous voyez la maman de Noémie qui était venue, pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines. Elle est repartie gonflée, encouragée. Parce que la parole qu'elle a reçue, c'était une parole dont elle avait besoin. Et Dieu a arrosé la terre de son cœur. Je ne veux pas me taire de ce que Dieu veut faire et de ce que Dieu fait. Oui, nous étions ennemis de Dieu, c'est ce que dit la Bible. Hein. Nous étions destinés à aller dans l'enfer éternel à cause de notre désobéissance, et lui, dans son amour et dans sa grâce, il nous a délivrés des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Et demandez au Seigneur de reconsidérer ce qu'il a fait pour vous. Moi, je ne peux pas dire, bah, il a fait ça, c'est à vous de savoir. La deuxième chose, c'est que je suis désolé de vous le dire, je ne suis pas propriétaire de ce que j'ai sur la terre, mais je suis gestionnaire. Et là, je vais toucher à quelque chose qui est typiquement occidental et typiquement même issu du jardin d'Éden. Dieu dit à Job, tout ce qui est sous le ciel m'appartient. Tout ici appartient. Les chaises, ces murs, c'est pas Monsieur Tafuri le propriétaire. C'est Dieu qui a toute chose ici. Tout appartient au Seigneur. Et le prophète Agé, le livre du Lévitique, confirme ce fait. C'est Dieu le propriétaire et nous ne sommes que des gestionnaires. Jésus met l'accent aussi sur notre appel à être gestionnaire de ce que Dieu a confié. Il lui dit à un moment donné, il dit à ses disciples, « Quel est donc l'économe fidèle, prudent, que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces. Et il parle à des serviteurs. Il parle à des gens du royaume de Dieu, sur la terre. Vous me dites si je me trompe ou pas ? Moi, ça me donne de la crainte. Alors, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups ou demandera beaucoup. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si je suis conscient que Dieu m'appelle à prendre des choses en main pour son royaume et que je ne le fais pas, je suis encore moins excusable que celui qui n'était pas au courant. Et là, vous êtes tous au courant maintenant. Nous le sommes tous. Non ? Ça va ? Notre temps, Et je pèse mes mots quand je dis ça. Notre temps, notre argent, notre travail, nos conjoints, nos enfants, tout appartient à Dieu. Sinon, ce qu'il est écrit dans le livre de Job n'est pas juste. Tout appartient à Dieu. Le moindre centime de ma poche appartient à Dieu. Ma chemise, même si elle jalouse les autres, appartient à Dieu. Tout appartient au Seigneur. Voici quelques pistes pour savoir si nous comportons comme des propriétaires ou comme des gestionnaires. Quelques pistes. Et ce n'est pas à moi de vous le dire, c'est vous qui pourrez demander au Seigneur, bah, « Seigneur, explique-moi, montre-moi. » Regardez. « Je ne demande jamais au Seigneur ce que je dois faire de mon temps ou de mon argent ou quelles sont ses priorités. Je ne demande jamais au Seigneur son avis sur mes gros achats, sur mes loisirs, sur mon temps passé pour diverses activités. Je préfère rester sur mes positions, c'est-à-dire, entre parenthèses, je ne fais rien lorsque j'entends me parler, quand j'entends Dieu me parler pour un besoin particulier dans son église, pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Je ne demande jamais au Seigneur là où j'ai failli dans ce qui m'a été confié. » Allez, on passe au 3, ça ira peut-être mieux. « Considérez la brièveté de la vie et le jugement à venir pour la fin des possessions et pour fin de la possession, les possessions éternelles. Comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, c'est pas belge, hein, c'est une seule fois, après quoi vient le jugement ? De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Moi, je ne peux pas savoir quand je vais mourir. Vous ne le savez pas non plus. Ben, dites-le-moi si vous le savez. Mais une chose est certaine, c'est que je vais mourir. Et une chose est certaine, c'est que tu vas mourir. Et c'est mon attendance dans ce monde qui déterminera ce que j'obtiendrai au ciel. Il y a un frère, il s'appelle, j'en ai parlé l'autre soir à la réunion de prière. Comment il s'appelle le frère ? Pierre Auffray. Pierre Auffray qui est un prophète, il est français mais il vit en Allemagne, il parle bien allemand. Et cet homme a été ravi en esprit dans le ciel. J'ai regardé son témoignage, je crois que je te l'ai envoyé, hein, la copie. Et le Seigneur l'invite. Il l'invite. C'est pour imager ce que je vais dire. Des fois, vous allez retenir cette histoire et puis tout ce que j'aurais dit avant, vous n'allez pas le retenir. C'est pas bien. Hein. Je suis pas content. Enfin, bref. Et donc, il va aussi. Enfin, le Seigneur le ravit en esprit, comme ça. Et il arrive dans une grande bibliothèque. Alors, il voit pas le Seigneur est à côté de lui, et puis lui dit, « Oh, c'est beau, Seigneur, tous ces livres, c'est quoi ?» Eh bien, il dit, « Ce sont les livres de vie de tous mes serviteurs, mes servantes, de tous ceux qui m'ont suivi. » Ah, oh, il dit, « C'est beau, Seigneur !» Et cet homme a bien connu Reinhard Bonnke, que vous connaissez, c'est un grand évangéliste allemand, hein, qui a amené des milliers de personnes au Seigneur, et il lui dit, « Est-ce qu'il y a le livre de Reinhard Bonnke ?» Elle lui a dit « Oui, regarde. » Alors, il ouvre le livre et le livre est bien rempli. Et puis, il voit un autre livre à côté. Le Seigneur lui permet de l'ouvrir. Il lui dit « Ah, mais Seigneur, le livre commence bien. Il y a un gros trou au milieu, des pages blanches. Et puis après, il y a les... Ça recommence. Ben, dis ça, tu vois, c'est un de mes serviteurs ou de mes servantes. Je ne me souviens plus, hein. Qui a, un moment donné dans sa vie, s'est arrêté. Mais il a repris du service après. Et puis, il lui montre encore un autre. Il y en a d'autres, des livres ? Ah oui, regarde, prends celui-là. Il ouvre. Et puis là, le livre est aux trois quarts rempli. Et puis la fin, dernière partie, les pages sont blanches. Tu vois, il dit, cette personne a abandonné. Alors pourquoi le Seigneur lui a-t-il montré cela ? Il lui a dit, je veux que tu retournes et que tu dises que tout ce que mes enfants font sur la terre, c'est inscrit ici. À chaque fois qu'ils prient, c'est inscrit ici. À chaque fois qu'ils donnent à manger à l'un de ses petits, c'est inscrit. C'est marqué dans la Bible, hein, ça, c'est rien d'antibiblique dans ce que je viens de vous raconter. À chaque fois qu'ils font du bien, qu'ils prient pour les autres, à chaque fois qu'ils prennent du temps pour aimer, pour évangéliser, pour parler, tout est écrit. Dis-leur ceci. Dis-leur ceci aussi, que parfois, il m'a fallu commencer un livre avec une personne et la personne ayant abandonné, il m'a fallu mettre quelqu'un d'autre à la place. Je résume un peu. Et ça a été écrit dans son livre à lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que les plans de Dieu se manifestent et se feront toujours, même si tu es défaillant. Est-ce que tu vas laisser quelqu'un d'autre terminer ce que Dieu avait décidé de faire avec toi ? Je répète, est-ce que tu vas laisser quelqu'un d'autre faire ce que Dieu avait décidé de faire avec toi ? Toi. Toi. Je continue. Paul écrit aux Corinthiens. Il dit, en effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Le corps, c'est l'Église. Le message est donc à m'adresser aux croyants. Notre problème est que souvent nous considérons comme étant éternel. On a toujours le temps. On se dit, je suis jeune. Sauf, peut-être, lorsqu'il y a un deuil, lorsque nous perdons quelqu'un de proche. Et ma prière, c'est, Seigneur, je te prie, afin que la perspective éternelle soit plus présente dans nos choix, dans nos objectifs, dans la manière dont nous gérons ce que tu nous as confié. Tu n'es pas simplement appelé à bâtir des choses ici, mais à bâtir ce que tu fais ici, construire les choses de ton éternité. Et on regarde ici. Et on est terrestre. Et pourquoi Paul dit, c'est pourquoi Paul dit aux Colossiens, recherchez les choses célestes, les choses d'en haut, qui ont beaucoup plus de valeur que les choses terrestres. Ça va ? Ensuite, quatrième, je récolte déjà dans ce monde ce que j'ai semé. Alors moi, c'est l'aspect qui me plaît le plus. Je me dis, Seigneur, ça, je veux bien. Je travaille tellement sur mon potager, enfin, j'ai un petit potager à la maison, mais ce que j'aime, c'est récolter ce que... On a goûté des tomates, mes tomates, j'ai mis plusieurs variétés de tomates, et l'autre fois, on a fait un mélange de toutes ces variétés de tomates. Même mon fils Timothée m'a dit, c'est un compliment. Il m'a dit, papa, j'ai jamais mangé d'aussi bonnes tomates. Je récolte déjà ici ce que je sème. Et ça doit m'encourager à donner aussi. Galate dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Le proverbe 22 dit, celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Et là, c'est la bénédiction terrestre qui découle de ma propre générosité. Je récolte toujours ce que je sème et en proportion de ce que j'ai semé. Du coup, j'ai fait un truc. Alors, il paraît qu'on peut récupérer les petites graines dans les tomates. Je n'ai pas récupéré une graine de tomate. Vous savez ce que je vais faire l'année prochaine ? Je vais semer toutes mes graines de tomates qui auront séché pendant l'hiver et je vais faire des plants. Et je distribuerai. Je donnerai afin que vous puissiez goûter aux tomates de Bruno. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, je parle de votre temps, je parle de l'abandon de votre temps, de notre temps, de nos priorités. J'ai des priorités, mais sont-elles celles de Dieu ? Il dit ceci, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle. Dans les maisons, dans les frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Tiens, la bénédiction, c'est aussi la persécution. On y viendra une autre fois. Et dans le siècle à venir pour la vie éternelle. C'est-à-dire que tout ce que je sème, tout ce que je donne, toute ma générosité, je récupère maintenant et dans le siècle à venir. Bon, voilà. Et puis, enfin, dernier. je deviens un bon attendant de mon temps. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on doit se poser. J'ai un ami qui s'appelle Pascal. Un jour, c'était un homme qui travaillait beaucoup. Il était tout le temps sur la route. Il était commercial. Il l'est toujours. Et Pascal, à un moment donné, il se retrouve dans le Seigneur et il dit, mais je crois que tu as entendu parler de cette histoire. Ah Seigneur, mais comment je peux faire, Seigneur, pour prier parce que j'ai jamais le temps. Et le Seigneur lui répond, qu'est-ce que tu fais quand tu prends rendez-vous avec tes clients? Ben, il dit, Seigneur, je le note sur l'agenda. Et alors, qu'est-ce que tu attends pour le noter sur ton agenda, de prendre du temps avec moi? Une belle histoire, hein? Se poser la question, suis-je un bon attendant de mon temps? Pour cela, il est nécessaire. Et ce que je vous dis là, enfin, je vous le donne, mais je le prends pour moi. Hein. C'est très difficile pour moi de gérer mon temps, hein. Même en ne travaillant plus. C'est pire maintenant. Pour cela, il est nécessaire d'analyser notre style de vie en posant honnêtement la question au Seigneur sur mes activités inutiles et utiles, sur le sommeil excessif, sur les fêtes, sur les priorités des fêtes, sur les réseaux sociaux, sur la télé. Je dis ça hier, j'ai fait le geek, j'ai regardé deux films hier après-midi sur Netflix. Ben, ça m'a fait du bien parce que je n'avais pas pris de temps pour moi depuis au moins un bon moment. À tel point même que je culpabilisais et puis à la fin, je me suis dit, mais non Seigneur, j'ai besoin aussi de prendre du temps aussi pour moi et de me poser. Mais si je passe tous mes samedis après-midi ou tous les jours de ma vie à regarder Netflix, est-ce que vous comprenez qu'il y a un vrai déséquilibre, n'est-ce pas? C'était pas Netflix, c'était Prime Video. De m'engager à vivre ma vie actuelle pour Dieu. C'était le cas pour Jésus. Regardez ce que Jésus dit, un gestionnaire de son temps. Regardez, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il est temps, pendant qu'il fait encore jour, pendant qu'il est encore temps, que je fasse que les œuvres du Père, que le Père a prévues d'avance pour moi. Nous avons tous des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il est temps d'y aller. Il est temps de faire, de sortir de l'inactivité, de la passivité. Voilà, j'espère vous communiquer une once, une graine de générosité pour Dieu. De déterminer avec le Seigneur les priorités les plus importantes qui sont sur son cœur. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. J'ai un gros matou là qui est arrivé. Excusez-moi. Conclusion. Et c'est la conclusion peut-être d'un verset qu'on pourrait apprendre par cœur, se le mémoriser. Enseigne-nous, enseigne-moi, Seigneur, à bien compter mes jours, afin que mon cœur parvienne à la sagesse. Allez, on le fait ensemble. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse.